Hello, hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. On se retrouve aussi sur Instagram à Famille et Voyage avec un S _ blog. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation! On retrouve Quentin qui a commencé à nous conter son magnifique voyage en famille en Afrique du Sud la semaine dernière. Après près d'une semaine à Cape Town, une ville aux multiples facettes, ils sont partis en road trip jusqu'à Port Elizabeth. Il nous a raconté les Big Five et les baleines par centaines à Dihoop, les suricates à Hawthorn, la magnifique nature du parc de Titicaca. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, mettez sur pause, reprenez le début de l'histoire et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, Quentin nous emmène dans le parc national Addo à la rencontre des majestueux éléphants et nous partage ses coups de cœur avant de passer en mode guide pratique pour vos prochaines vacances. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du carnet de voyage de Quentin en Afrique du Sud. Hello Quentin!
Hello Stéphanie!
Eh ben on continue!
Ouais! Eh ben ensuite du coup, après ce tour du côté de Nisha et du parc national du Tsikama, on a pris la direction du dernier spot en Afrique du Sud qu'on souhaitait faire, qui est le Addo National Park. Et en fait, ce National Park est réputé, je crois, pour être le troisième plus vaste d'Afrique du Sud. Et en fait, il est aussi réputé pour abriter énormément d'éléphants. C'est l'emblème d'ailleurs du parc. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le Addo Elephant National Park, si je prends vraiment le nom complet, et qui permet voilà, d'apercevoir aussi bien le Big Five que tout un cheptel d'autres animaux que tu peux voir dans le coin. Et surtout, ce parc, il est faisable en autonomie. C'est-à-dire que tu viens avec ton véhicule, on te donne un espèce de plan à l'entrée qui te dit, voilà, tu peux prendre telle route. Évidemment, tout est limité à 30 hein, pour éviter de percuter un animal ou de faire du bruit. Voilà, il y a quand même des restrictions, forcément. Et donc, sur ce plan, tu peux retrouver les lieux de prédilection de certains animaux, donc pour avoir plus de chances de les voir. Tu as également des endroits protégés qui permettent de te restaurer ou d'aller aux toilettes sans ouvrir la porte de ton véhicule et te retrouver nez à nez avec un lion. C'est quand même dommage.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment on réagit dans ces cas-là.
Voilà. Donc, pour éviter ces genres de situations, tout est bien fait pour que tu sois à l'aise dans ton itinéraire, en sécurité, tout en profitant des animaux. Et ce qui est génial, c'est que nous, on a adoré parce qu'en fait, quand on a pris la voiture, au début, bon, on a passé une demi-heure à rouler un petit peu sans voir grand-chose. Et à un moment donné, on passe dans une petite route vraiment avec des arbres tout autour. Donc, on voyait pas, si tu veux, l'horizon à droite et à gauche. Et là, on a un éléphant qui est sorti nulle part à 20 mètres du véhicule qui, entre guillemets, nous barrait la route pour faire passer sa famille. Donc, voilà, c'est notre première rencontre avec les éléphants du Addo. C'est ce moment voilà, assez magique où finalement on laisse passer la famille d'éléphants qui finalement est allée se nourrir de l'autre côté. Et toi en fait t'es dans ta voiture, tu regardes cette scène, c'est assez magique, t'essaies de prendre des photos et tout, t'es un peu excité. Et après on s'est aperçu que bon en fait il y a au moins plus de 400 éléphants dans le parc. Donc tu recroises à plein d'autres moments des éléphants à côté d'un barrage, à côté d'un petit cours d'eau. Et c'est pour ça aussi que le parc est réputé, c'est pour les voir de près. Et avoir aussi la chance de les voir. Parce que je sais que tu peux ne pas les voir dans certaines réserves, parce qu'il y en a peut-être peu, ou ils sont peut-être difficiles à observer. Mais là, ici, je t'avoue qu'on a une autre dose d'éléphants. Et le parc, effectivement, est très étendu, puisqu'il est vraiment immense, mais tu les retrouves quand même assez facilement.
Votre sortie a duré combien de temps?
Alors là-bas, on avait pris un logement qui est pas loin du parc, donc qui est pas dans le parc, qui est à l'extérieur. Le matin, on prenait la voiture, on allait à la gate principale et on remplissait les papiers pour pouvoir rentrer dans le parc. Et on y a passé 2 jours. Donc 2 jours à faire des itinéraires différents pour aller voir voilà des buffles, des antilopes, forcément des éléphants. On a également vu des hyènes. On a eu la chance d'en observer de loin. On a revu des suricates.
Ah, trop bien.
Voilà, on a vu vraiment plein plein d'autres espèces. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu pousses un peu plus loin dans le parc et que tu vas vers le littoral, tu peux également voir des baleines, encore une fois. Si tu as encore plus de chance et si tu fais une sortie en mer, tu peux voir des requins. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tu peux faire aussi bien du terrestre que de l'aquatique, tout en restant dans le parc. Donc c'est vraiment un parc qui est immense et qui est super chouette pour ça. Et du coup, bah forcément, tu es en voiture, donc tu es en autonomie. Donc si ton bébé il a envie de faire de la sieste, et bah il est dans son siège auto ou peu importe, et tu prends le temps de t'arrêter et de faire une pause, et tu peux reprendre le trajet ensuite, tu manges à l'heure que tu veux, puisque tu peux embarquer un pique-nique ou manger sur place, il y a ce qu'il faut au niveau restauration. Et c'est plutôt toi qui as l'impression d'être enfermé finalement dans un zoo par rapport aux
Oui.
animaux qui sont là à t'observer toi dans ta voiture, puisqu'ils ont vraiment un espace qui est immense et ils vont vraiment où ils veulent. Et pour le coup, tu croises également assez peu de voitures. Et on n'a pas du tout été embêté par ça. Là où on trouvait des animaux, il y avait peut-être un véhicule, deux véhicules maximum pour faire des photos. On n'avait pas l'impression de déranger trop l'animal, qui a comme ses habitudes finalement, et on pouvait les voir facilement. Tout en sachant que même à certains moments, les éléphants étant très curieux, puisqu'ils ont l'habitude de voir des véhicules toute la journée, ils vont carrément essayer d'ouvrir ta fenêtre. C'est-à-dire qu'ils s'approchent de ton véhicule. Si tu as le malheur d'avoir la tête un peu ouverte et qu'ils sentent un peu de bouffe à l'intérieur, c'est possible qu'ils viennent voilà, glisser sa trompe pour aller chercher ce qu'il a envie. Donc, il faut aussi se méfier, hein. Il faut faire attention. Ça reste quand même des animaux sauvages. On ne sait
Mais
jamais de
oui.
quoi ils sont capables. Donc, il y a eu des situations un petit peu comme ça. On s'est dit, attends, qu'est-ce qu'on fait là? On recule, on ne bouge plus, on redémarre. Là, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Tu vois? Il est là, il observe, il est curieux, il nous voit. Évidemment, notre fils, lui, était complètement omnibulé derrière dans le véhicule par tout ça. Il avait même parfois un petit peu peur, du coup, parce qu'il pensait pas les voir aussi proches. Voilà. Et c'est vrai que c'est imposant.
Mais oui, surtout pour un petit.
Voilà, exactement. Et donc voilà, vraiment des moments exceptionnels là-bas. On a passé 2 jours, 2 jours à observer toute cette faune. Et ensuite, il était le temps de repartir. Et donc on a repris le véhicule direction la grande ville de Port-Elisabeth, qui est vraiment à environ 60, qui est à 70 km du parc, et qui permet de. Bon, la ville en soi n'a pas un grand intérêt, mais nous c'était du coup notre point final de road trip entre guillemets. On a rendu le véhicule là-bas. Et on a repris un vol interne d'à peu près 1 heure pour revenir sur Capetown, repasser une journée pour se détendre et reprendre notre vol international pour Paris.
Par rapport au safari, est-ce que tu as eu finalement une préférence entre ceux qui sont guidés et le fait d'être en autonomie? Ou en fait, les deux sont tellement différents qu'il faut faire les deux en vrai?
Oui, je pense que c'est intéressant de faire les deux dans le sens où quand tu le fais en autonomie, bah tu peux pas tout voir et tu connais pas forcément, enfin tu vas pas reconnaître la trace d'un animal par là où il est passé et ses habitudes. Donc tu vas un peu tâtonner, mais c'est ça aussi qui est magique, c'est que du coup tu le fais par toi-même et tu es super content quand tu as trouvé je sais pas quand tu as vu un suricate courir
C'est
à
ça.
peut-être 50 mètres de vision ou que tu as repéré un lion ou autre. C'est un moment magique parce que tu t'y attendais pas trop et tu les trouves. Donc c'est ça aussi un petit peu le jeu. On avait, je me rappelle, notre guide notre guide papier et on pouvait cocher en fait les
Tu
animaux qu'on avait
coches,
vus dans la
mais
journée
oui.
avec un stylo, voilà c'est ça, et du coup tu cherches, tu dis attends ça on l'a pas vu encore, on va essayer de le trouver, et t'as des petites indications qui te disent bon bah lui il est plutôt dans les arbres, plutôt à côté d'un cours d'eau ou autre, donc ça permet aussi de faire un petit jeu de piste finalement assez assez marrant. Et le truc qui est bien avec les safaris guidés on va dire, c'est que bah t'es accompagné par un expert on va dire qui connaît bien les animaux du coin et qui lui va te montrer assez facilement et t'apprendre à les reconnaître et à les retrouver facilement sur le parc tout un tas d'animaux. Il va également voilà t'expliquer tout un tas d'anecdotes sur cet animal-là, ce que tu auras pas toi dans ton safari en autonomie. Donc ça c'est hyper intéressant et surtout c'est sur des courts moments mais intenses. Par exemple, en 2 heures tu vas faire voilà un petit safari mais tu auras vu énormément de choses, tandis que au ado en autonomie, en y passant la journée, donc en restant à peu près je sais pas 5 6 heures en véhicule, on a vu pas mal de choses, mais on n'aura
Mais
peut-être
pas
pas vu
autant.
autant de choses avec un guide. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est un mix intéressant si tu as la possibilité de le faire à la fois en voiture par tes propres moyens et de le faire accompagné d'un guide expert qui te permet voilà d'apprendre davantage, on va dire, sur la faune et la flore de l'Afrique du Sud.
Quels ont été, pardon, vos coups de cœur à vous en tant qu'adulte, et peut-être est-ce que tu arriverais à repérer ce qui a le plus plu, c'est un peu compliqué à 1 an et demi, mais...
Et ben écoute, au niveau des coups de cœur, pour les adultes, on va dire qu'on a vraiment eu un énorme coup de cœur pour Cape Town, donc la ville où on a passé pas mal de temps au début, aussi bien pour tous ses attraits naturels que l'atmosphère dans la ville, qu'on a trouvé assez cool, assez chill. On a bien aimé notre séjour là-bas. Je dirais également qu'on a bien aimé Betty's Bay et l'endroit où on peut voir tous les manchots et les colonies, parce que c'est assez incroyable de pouvoir les voir là-bas. Et c'était un moment super chouette, aussi bien pour nous que pour le petit. Tu vois, au moment où il était nez à nez avec un manchot, qui faisait du coup, qui était pas si petit que ça par rapport à notre enfant. Mais ils étaient à 1 mètre l'un de l'autre, parce que j'imagine que le manchot voulait rejoindre peut-être un nid ou autre, parce qu'ils sont vraiment en liberté, hein. Donc sur son territoire, et ils croisaient notre chemin, et du coup, tu vois notre fils qui regarde le manchot, il se regarde, tu vois, tu sais pas trop ce qui se passe. Il n'est pas apeuré, mais il observe, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, c'était un moment assez magique. Donc, ça, je pense que tout le monde l'a apprécié. Ensuite, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est la réserve de Dehoop. Pour le coup, je t'en parlais, c'est vraiment sauvage à souhait. Et tu vois un nombre incalculable de baleines, mais sans les touristes, en plus. Contrairement à Manus, qui est là, un hotspot, mais qui est quand même assez touristique. Et je dirais, plus globalement, les game lodges qu'on a fait à travers voilà, les différents safaris et le Hado, qui était également un gros coup de cœur. Parce que c'était notre premier safari en autonomie, entre guillemets, que tu peux faire également au Kruger, etc., en Afrique du Sud, mais qui sont du coup pas des zones pour les enfants, dans le sens où tu as du moustique, c'est pas malaria-free. Donc nous, on s'était finalement réservé le Hado pour faire cette expérience vraiment d'exploration en autonomie. Et donc ça, c'était un vrai coup de cœur, vraiment un coup de cœur.
Mais c'est cool de parler de ce parc, parce que évidemment tout le monde pense au Kruger parce que
Exactement.
C'est plus connu, et j'avais pas en tête ce problème de moustiques et de malaria, et je savais pas non plus, mais parce que j'ai pas étudié la question, qu'il y en avait d'autres qui sont tout aussi intéressants et un peu plus sécures sur ce sujet-là. Donc voilà, on aura des alternatives plutôt chouettes.
Exactement. Hein. Exactement. Donc vraiment, en fait, finalement, un pays adapté aux enfants banals, au bas âge, pardon, si tu restes évidemment dans les zones adéquates. Donc tout ce qui va être vraiment sud-sud de l'Afrique du Sud, aussi bien aux alentours de Cape Town, en montant un peu plus haut, voilà, passons par Port Elizabeth. Toutes ces zones-là, finalement, bah, elles sont sans danger pour les enfants. Donc c'est hyper agréable et voilà, tu peux le faire avec des kids en bas âge. Donc ça, c'est génial.
On va passer au guide pratique, mais avant, je crois que tu as une anecdote à nous raconter qui s'est passée au début du séjour.
Voilà, on a atterri, donc vol de nuit, bon, un peu décalqué forcément. Donc on arrive vraiment avant le lever du soleil, donc de pleine nuit. Donc on loue le véhicule, on se dirige à Cape Town, on arrive dans notre Airbnb, on essaye d'allumer la lumière, et non, pas de lumière. On se dit, tiens, c'est bizarre. Et d'ailleurs, on s'était fait la réflexion sur le trajet qu'il n'y avait aucun lampadaire d'allumé. Donc, on roulait évidemment en plein phare ou quand on croisait des gens, bon, évidemment avec des phares normaux. Mais la ville était comme éteinte, plongée dans le noir.
Ah, bizarre.
Donc, en arrivant en Airbnb, on essayait d'allumer le courant, on essayait de brancher nos téléphones parce qu'on n'avait plus beaucoup de batterie, etc. Mais rien, aucun courant, rien, rien, rien. Et là, on se souvient d'un truc qu'on avait dans le guide, qu'effectivement, en Afrique du Sud, donc c'est vraiment une particularité du pays, c'est qu'il y a des pannes d'électricité récurrentes toute la journée. C'est un problème chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont. Ils ont, je crois, une entreprise qui n'arrive pas à subvenir aux besoins du pays en termes d'électricité. Et donc, ils sont obligés de couper le courant tout au long de la journée. Donc, tu as des horaires prévus par jour qui te permettent, du coup, voilà, de savoir quand est-ce que le courant va être coupé. Les gens bien équipés ont un générateur ou les grands hôtels ont un générateur. Il s'avère que nous, le Airbnb qu'on avait pris à Cape Town, n'en avait pas. Donc, c'est vrai que quand on est arrivé en pleine nuit, sans aucune lumière,
ah, c'est
avec
pas pratique.
Les clés qu'on avait trouvées et qu'on essayait désespérément de débiter la lumière ou de brancher un truc, bah, on n'y arrivait pas. Donc, on s'est endormi comme ça avec tous les bagages faits sans rien toucher parce qu'on voyait rien. On était tu vois, avec le petit flash du téléphone. Et on s'est souvenu, effectivement, qu'il y avait des pannes d'électricité qui étaient récurrentes. Et donc, ça a rythmé vraiment notre séjour. Pendant 3 semaines, en fait, voilà, on s'y habituait. On savait qu'à certains moments de la journée, eh ben, on n'aurait pas pu, je ne sais pas, brancher un téléphone, prendre une douche, etc. Parce que voilà, le courant est coupé et que du coup, bah, tu te retrouves voilà, sans électricité. Et il y a même une autre anecdote que je pourrais te raconter qui nous a surpris toujours à Cape Town. Je crois que c'était peut-être le lendemain de notre arrivée. On s'était endormi donc parce qu'on était fatigué, c'était le deuxième jour et qu'on avait besoin de se reposer. On s'était réveillé un petit peu en décalé vers 20h, etc. Donc on avait tout rallumé, on avait allumé toutes les lumières parce qu'il faisait nuit et qu'on avait besoin de ranger un peu. Le petit s'est endormi, je m'en rappelle. Du coup, nous, on était un petit peu également réépuisés par notre rangement et par l'excitation du lendemain. On s'est dit, bon, on s'est endormi comme des loques sur le lit. Donc, on a laissé les lumières. Il y a une coupure de courant qui est arrivée entre-temps. Donc, finalement, on s'est dit, bon, bah, flemme d'éteindre les lumières. De toute façon, tout est coupé, on voit plus rien, on peut aller se coucher. Et là, à 4 h du matin, je m'en souviens, donc la coupure était prévue peut-être de 22 h à 4 h, un truc dans le genre. À 4 h du matin, tu
Surprise!
vois toutes les lumières qui se rallument, la télé qui redémarre, je ne sais plus si c'était la radio ou peu importe, enfin, tout redémarre, et en fait, tu flippes, parce que tu
Bah
dis,
oui,
mais qu'est-ce qui se
qu'est-ce qui se
passe?
passe?
Et là, tu te fais réveiller en plein milieu de la nuit, c'est même pas le gamin pour une fois, et là, tout se rallume, et tu es obligé d'aller éteindre les lumières de tout l'appartement, partout, retrouver les boutons, parce que tu sais un peu où ils étaient. Mais c'est assez marrant, parce que c'est pas des choses qui arrivent en France. Mais là-bas, c'est quelque chose de commun. Voilà, il faut savoir, il faut pas oublier qu'il y a des coupures. Et du coup, bah, quand il y a une coupure, il faut tout rééteindre parce que sinon, ça va se rallumer au bout d'un moment automatiquement. Et voilà. Donc c'est un petit peu cette première impression qu'on a eue de Captain. Finalement, c'était ces coupures d'électricité prolongées. C'est vraiment cette sensation d'obscurité qu'on a eue quand on est arrivé. Et voilà. Bon, après le lendemain, forcément, quand on a ouvert les rideaux, ah, c'était magnifique. Hein. La ville nous a laissé une excellente impression. On avait l'océan à gauche, le côté urbain en face et à droite les montagnes. Voilà, c'était incroyable. Mais c'était vraiment ce sentiment d'arrivée qui a été vraiment directement rythmé par cette panne d'électricité qui était assez insolite et assez marrant à vivre, finalement.
Bon, bah on va passer au guide pratique.
Allez, ça marche.
Combien d'heures d'avion? Quel décalage?
Alors, j'ai pas l'horaire exact en tête parce qu'on a fait sur l'aller-retour, on a fait un stop à Amsterdam en prenant la compagnie KLM qui dessert pas mal l'Afrique du Sud. Mais de mes souvenirs, c'était une bonne dizaine d'heures en
Ouais.
cumulé, hein, entre 10 et 15 heures, voilà, avec ce petit stop au vert d'1 h 30 à Amsterdam. Et au niveau du décalage, qui est hyper pratique en Afrique du Sud, c'est qu'il n'y en a pas.
Ah, ça c'est
Donc, tu es
top.
sur le même fuseau et pour les enfants, bah, c'est super agréable parce que du coup, ils sont absolument pas décalés. Si tu as l'habitude de les coucher à 8 heures, bah, tu les coucheras à 8 heures là-bas.
Quelles sont les formalités pour aller en Afrique du Sud?
Alors, on a de notre côté rien eu à faire en termes de visa. Tout se fait à l'arrivée. Il est gratuit, te permet de circuler librement dans le pays. Et en plus, je me rappelle que les formalités à la douane sont quand même relativement rapides. Tu prends un coup de tampon et t'es dans le pays, quoi. Donc, finalement, en termes de visa, c'est très très simple. Si t'as prévu d'aller dans les zones plus au nord d'Afrique du Sud, qui sont du coup peut-être exposées à la malaria, etc. Eh ben, je pense qu'il faut prévoir quelques vaccins, si en tant qu'adulte et même en tant qu'enfant, si jamais c'est pas le cas, pour justement éviter voilà des problèmes de santé. Mais comme je te disais, il y a une zone vraiment complètement vierge de tout moustique, on va dire, en tout cas de moustiques contaminants, qui se situe vraiment au sud de l'Afrique du Sud, si je peux me permettre, et qui te permet de ne pas avoir à passer par l'étape vaccin si tu veux visiter le pays.
Donc, à part le passeport, valide 6 mois après la date de retour, tout va bien pour les
Oui,
formalités.
exactement, exactement, pas de stress.
Côté sécurité, justement, tu nous l'as dit rapidement, vous n'avez pas ressenti d'insécurité, mais il y a quand même une atmosphère assez particulière.
Voilà, effectivement, il y a une atmosphère assez lourde qui peut parfois, dans certaines situations, les mettre un peu pesantes. Nous, on ne s'est pas du tout senti en insécurité. Vraiment, sur les 3 semaines, on a jamais eu de coup de stress où on s'est dit, aïe, 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 qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est pour ça également que l'Afrique du Sud est un des 3 pays les plus visités d'Afrique. C'est que quand même, tu es relativement en sécurité là-bas. Mais comme tu dis, voilà, il y a une atmosphère qui peut être un peu pesante parfois. Dans les grandes villes, tu vois beaucoup de barbelés autour des habitations. Parfois, tu as des regards, forcément, de certaines populations qui te voient peut-être comme un billet de dollars. Mais on n'a jamais été embêté, on n'a jamais été agressé, on ne s'est pas senti du tout en insécurité, même en marchant le soir dans la ville, etc. On était assez à l'aise avec ça. Bien sûr, il y a des quartiers où il ne faut pas aller, il y a des quartiers où il ne faut pas circuler de nuit, comme partout dans le monde. Mais ça, c'est un peu de bon sens, on va dire. Et sur certaines zones, forcément, voilà, tu vas pas sortir ton téléphone ou ton appareil photo ou ton porte-monnaie, puisque du coup, tu vas éviter voilà d'attirer les regards. Mais hormis ça, nous, voilà, on a vraiment pas ressenti d'insécurité par rapport à ça.
Et les zones où il faut faire attention, elles sont dans tous les guides, donc il n'y a pas de sujet, on sait ce qu'il ne faut pas faire.
Absolument.
Votre hébergement préféré?
Alors, notre hébergement préféré, je dirais qu'il était, il était à Hermanus, puisqu'on avait loué un petit Airbnb, une genre de petite maisonnette, mais qui était vue mer, toute cosy, toute bien décorée, etc., assez facilement accessible en voiture, et qui nous permettait toute la journée de pouvoir voir les baleines au large
Ah là là.
qui faisaient leur vie. Et donc ça, c'était assez magique, puisque c'était surtout pour la vue, je pense, qu'on l'avait pris, et on n'a pas du tout été déçus. Parce que voilà, on avait une vue extraordinaire sur ces fameuses baleines, en prenant le petit café du matin ou en regardant juste simplement toute la journée à travers la fenêtre, quoi. Donc ça, c'était vraiment notre logement couture, on va dire, sur le séjour.
On n'en a pas parlé et ça fait partie des questions que j'adore. Quelles sont les spécialités culinaires qu'il faut absolument pas louper?
Alors, je suis pas le plus grand des fins gourmets, mais en tout cas, de notre expérience, on n'a pas eu un réel coup de cœur pour la gastronomie locale. Certainement qu'il y a des jolies spécialités, mais avec notre enfant, on s'est plutôt positionné sur voilà des restaurants parfois un peu internationaux. Ou sinon, on a aussi beaucoup mangé de fruits de mer, puisque forcément, ils ont un littoral exceptionnel. Donc, tu manges beaucoup de poissons frais, beaucoup de crustacés frais. Donc ça, on s'est régalé d'un point de vue là. Également, on a fait quelques brunchs sympas à Capetown, dans certains quartiers à côté de la mer. Mais sinon, on n'a pas eu un souvenir impérissable, si tu veux, d'une spécialité ou d'un plat local qui nous a marqué, pour être honnête. On a, voilà, on a, c'était pas ce à quoi on s'attendait, mais on n'a pas été marqué par la culture locale au
On
niveau
pouvait
du
pas être
culinaire.
marqué partout, il y avait tellement d'autres
Voilà, exactement.
choses. L'activité à ne vraiment pas louper avec les enfants.
Alors, il y en a pas mal. Difficile de faire un choix, que tu sois à Capetown ou le long de la côte, il y a plein de choses à faire. Mais je dirais que pour des tout petits, faire un safari, ça reste
Ouais.
magique, puisque tu vois la magie dans leurs yeux et c'est assez incroyable parce que lui, peut-être 2 semaines avant, il aura feuilleté un bouquin où il aura vu les animaux d'Afrique et là, il les voit en vrai. Donc,
Ouais.
tu vois vraiment la magie dans ses yeux. Également, tu peux aller voir les baleines avec lui, donc ça c'est aussi un moment magique parce que c'est massif et imposant. Et lui, il est complètement omnibulé par ce qui se passe en mer. Si t'as un peu la flemme d'aller en mer, tu peux aussi aller à l'aquarium de Capetown, qui est très didactique et vraiment kid-friendly. Également faire toute la partie randonnée facile, on va dire, avec un porte-bébé. C'est des moments que tu peux faire en famille très facilement puisque c'est bien balisé, que c'est facile et t'en prends plein les yeux. Voilà, je dirais que c'est toutes ces activités un peu outdoor que tu peux faire avec des enfants facilement en Afrique du Sud, que je recommanderais en tout cas pour des jeunes familles.
Le truc à ne pas oublier avant de partir.
Le truc à ne pas oublier avant de partir, je dirais une paire de jumelles.
Bah oui, pour les
Parce
baleines.
que, exactement, alors d'une part, si tu es en saison, tu peux aller voir les baleines, donc ça c'est cool de pouvoir les observer, même si tu es loin, et du coup d'avoir cette petite jumelle qui permet de bien les observer. Surtout ce qui va être safari. Forcément, le guide, il a sa paire de jumelles, mais il n'a pas pensé en prendre pour tout le monde. Donc, c'est bien d'en avoir. Et puis même, quand tu es finalement sur les hauteurs de Cape Town, que tu sois à Table Mountain ou Lion's Head, bah, c'est toujours sympa de pouvoir voilà, faire des zooms finalement avec ta paire de jumelles sur certains quartiers de la ville et te repérer un petit peu. C'est plutôt chouette à avoir à disposition en tout cas.
Est-ce qu'il y a eu un loupé, un endroit que vous avez moins aimé?
Oui, alors c'est pas, je dirais pas que c'est forcément un endroit qu'on a moins aimé, mais c'est plutôt au niveau logistique qu'on a eu à louper. C'était pour se rendre à Diop depuis Hermanus. En fait, on avait calculé un itinéraire en passant par voilà des grandes routes pour se rendre à notre logement. On savait qu'on avait beaucoup de trajets dans la journée et qu'il fallait pas traîner. Et en fait, ce que j'avais mal vu, c'est plutôt de ma faute. C'est qu'à un moment donné, sur le trajet, il y avait une barge, donc un petit bateau qui prenait ta voiture et qui l'emmenait de l'autre côté. Sauf que ce qu'on n'avait pas forcément étudié, c'est que la barge, elle finissait son service à 18h, et que à part de ce moment-là, à moins que ta voiture se transforme en sous-marin ou que tu construises un pont à la main, tu ne pourras pas aller de l'autre côté.
Ah, c'est
Donc,
ballot.
on a fait un petit détour d'environ 2 heures et demie,
Oh, oh
hein,
mince.
pour récupérer la grande route et revenir de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'était le petit loupé qui fait qu'on est arrivé à, je sais pas, 22h au lieu d'arriver à 20h au logement, parce qu'on avait mal calculé ce petit point logistique de barge. Et le lendemain, on s'est pas fait surprendre. Quand on a dû re la retraverser pour aller ailleurs, cette
Ah bah
fois-ci,
tu
on était dans les clous et on
m'étonnes.
a pu la prendre.
Côté budget, on s'attend à quoi?
Alors, côté budget, moi j'ai trouvé que déjà au niveau de l'aérien, c'était pas des prix hyper chers comme on peut avoir en, si on se rend, je sais pas, en Asie ou en Amérique du Sud, parce que t'as quand même pas mal de concurrence au niveau de l'aérien qui se rendent du coup, enfin de compagnies qui se rendent, pardon, en Afrique du Sud, donc aussi bien les compagnies des Émirats, Air France, KLM, voilà. T'as vraiment beaucoup de compagnies qui se rendent à Cape Town. Donc les prix sont finalement assez concurrentiels et tu t'en sors pour des billets, on va dire, adultes, à moins de 1000 euros aller-retour. Ce qui est quand même, pour une destination long courrier, on va dire honnête. Et après, sur place, alors ce qu'on a trouvé de peu cher, c'est la nourriture, les restaurants. Il y avait quand même un écart de prix, un fossé par rapport à la France. On mangeait quand même beaucoup moins cher un menu complet, on va dire, ou un plat. Donc c'était assez positif de ce point de vue-là. Les logements n'étaient pas hors de prix. On a eu des super Airbnb pour des sommes non astronomiques, comme on peut avoir en Europe en haute saison, par exemple. La location de voiture, c'était assez honnête également. L'essence, c'est assez peu cher. Ce qui, par contre, nous a coûté, on va dire, cher et a pris une part importante du budget, c'est tout ce qui va être réserve privée pour faire les game drive. C'est des expériences qui sont trustées, donc faut les réserver en avance. Et du coup, les prix flambent un peu, puisque ce sont des expériences uniques, en plus, qui étaient dans des game lodges, on va dire, kid-friendly, donc qui sont peut-être plus minoritaires et donc plus trustées. Donc là, ça nous a coûté un peu plus cher. Mais mis à part ça, on va dire, sur tout ce qui va être logement, nourriture et activités basiques, on a trouvé que les prix n'étaient pas flamboyants. Enfin, c'était honnête. On a pu s'en sortir avec un budget qu'on avait mis de côté. On l'a pas dépassé. On est resté dans les clous.
Je te l'ai pas demandé, mais en fait, pour la location de voiture, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un permis international?
Non, non, il n'y a rien de particulier à voir. Tu viens avec ton permis français qui est photocopié et traduit sur place. Et ensuite, bah, tu prends la route tout simplement. En revanche, c'est conduite à l'anglaise.
Eh oui, eh, c'est pas
Donc
rien.
il faut se méfier, voilà, exactement.
Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages, donc pas forcément celui-là, et dont tu te serais bien passé.
Ouais, ce qui me vient spontanément, pardon, à l'esprit, c'est alors le voyage remonte à quand même une dizaine d'années. C'était en Thaïlande, sur l'île de Koh Samui. On avait fait une excursion en mer hein, pour aller voir voilà un peu le littoral et faire du snorkeling et sur les bateaux locaux avec un pêcheur, je crois, vraiment, un petit cru quoi. Vraiment, on avait trouvé le mec sur la plage, il nous avait emmené, c'était chouette. Et en fait, durant la journée, à un moment donné, il s'est mis à pleuvoir des trombes. Forcément, t'es en Thaïlande, c'était l'été, donc il y a voilà, hein, y a des moments où ça pleut beaucoup. Donc bon, jusque-là, tout va bien, c'est que de la pluie. Et en fait, à un moment donné, on voit le type qui commence à passer des coups de fil. On le voit essayer de triturer son moteur parce qu'on n'avance plus et qu'on est un petit peu au milieu de rien. Et en fait, le mec nous explique dans un anglais balbutiant que le moteur marche plus. Et qu'il n'a pas de rame et qu'il commence à bien pleuvoir qu'on est quand même bon à peut-être à 1 heure des côtes et donc on reste là comme deux couillons sur le bateau à attendre que ça passe déjà que voilà la petite mousson passe et finalement il arrive à capter un de ses potes qui appelle un bateau le bateau d'un hôtel qui passait pas très loin et qui nous a finalement bah, secouru entre guillemets. Donc on est monté se mettre au sec dans le bateau, il y avait des touristes qui nous regardaient avec des gros yeux, mais qu'est-ce qu'ils font là au milieu de rien, eux, sur la petite barque. Et donc voilà, le type, du coup, enfin le guide, on l'a également pris avec nous sur le bateau. Et je sais pas, genre, je sais pas comment il a récupéré son bateau ensuite. Je sais qu'il avait posé son ancre, attaché son ancre quelque part, donc pour le coup, je sais plus. Mais on est rentré, voilà, de cette journée finalement un petit peu insolite. Heureusement, c'était la fin de l'excursion, donc ça nous a pas balayé la journée. Mais voilà, on s'est un petit peu posé des questions à un moment donné. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire?
Tu n'envisageais pas de rentrer à la nage.
Non, absolument pas. Et surtout qu'il n'avait pas de rame et je pense qu'on aurait eu du mal à retrouver le chemin.
Mais oui. Oh! Et vous êtes resté combien de temps à vous poser des questions avant qu'il y ait cette
Oh, je
solution?
dirais une grosse demi-heure, parce qu'après, il
Ah,
nous a
c'est
dit que voilà,
long!
il allait avoir un bateau qui allait arriver et qui allait pouvoir finalement nous récupérer pour nous ramener sur la côte.
Votre prochaine destination en famille?
Eh bien, écoute, on va certainement aller à la montagne au mois de janvier, donc dans les Alpes françaises,
Ouais.
essayer de faire tester le ski au petit s'il le veut bien. Comme il a un peu plus de 2 ans, on peut peut-être essayer de lui faire tester la glisse, on va dire, voir s'il aime ça. Et ensuite, février, on fera certainement un autre voyage, peut-être un moyen, enfin, sur un moyen ou un long courrier, pour explorer un pays qu'on ne connaît pas en famille. On ne sait pas du tout encore lequel, puisqu'on s'y prend généralement un petit peu à l'arrache pour organiser nos voyages.
C'est bien
Et donc, ce
aussi.
sera, voilà, ouais, c'est bien et c'est pas bien, parce que du
Non,
coup,
mais bien
forcément, on
sûr.
n'aura pas les meilleurs prix.
C'est ça.
T'es parfois contraint de sélectionner une niche d'hôtel puisque tous les meilleurs hôtels ont été pris. C'est l'effet un peu négatif de ça. Mais quand t'as pas trop le choix, bah ouais, tu voyages un petit peu à l'arrache entre guillemets. Mais bon, jusque-là, tout s'est toujours bien passé. Alors, on a pu voyager en bonnes conditions et avoir plein de belles surprises.
Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast?
Eh ben écoute, une destination qui me fait bien rêver et que j'adorerais pouvoir faire en road trip en famille, c'est la Nouvelle-Zélande. Je sais, c'est très loin, c'est très très loin. Il faut au moins y passer 3 semaines, 1 mois. Mais c'est un pays qu'on aimerait bien découvrir sur les routes, en tout cas en famille.
J'ai des bribes de Nouvelle-Zélande dans des tours du monde qui m'ont été racontées, pas un épisode spécifique. Je viens de faire la Nouvelle-Calédonie qui est pas très loin, mais c'est quand même pas la même
Ah,
chose.
sympa.
Ouais, c'est hyper chouette, mais c'est très très loin.
C'est très très loin, mais ça doit être très dépaysant et du coup à rajouter dans ta liste pour tes prochains podcasts.
Exactement, je ferai un appel pour ça. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver?
Alors, où est-ce qu'ils peuvent me trouver? Ils peuvent me trouver sur Instagram au nom de Quentin Lafond, donc arrobas Quentin Lafond. J'ai un blog voyage où je raconte mes aventures, qui s'appelle You're So French. Alors, You're So French, il faut l'écrire avec un U et un R au début, et après tu peux laisser So French, et là tu
Ok.
m'en trouveras. Voilà, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal.
Bah oui.
Donc si tu aimes les photos ou que tu apprécies les beaux voyages, tu
Absolument.
peux aller voir mon compte.
Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Quentin, pour ce chouette carnet de voyage en Afrique du Sud.
Et merci à toi pour cet échange, et ravi d'avoir pu te faire découvrir ce beau pays, qui est l'Afrique du Sud, à tes auditeurs.
Eh ben, écoute, je pense que tout le monde a pu apprécier. Moi, c'est clairement une destination qui est sur ma liste. Plus je vois d'animaux, plus je suis contente. Donc là, je me suis régalée. Merci beaucoup et à bientôt!
Merci à toi, à bientôt.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, bah dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille-et-voyage_blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog famille-et-voyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.